Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a dans la Bible des textes qui me posent quand même de gros problèmes. Des textes qui me dérangent. Tous ne sont pas, je trouve, spécialement évangéliques, nous annonçant une très bonne nouvelle. Pourtant, celui-ci, Jésus l'a dit juste avant, deux fois, il est là pour nous annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, moi, cette image du filet, de la pêche, elle me dérange profondément. Parce que d'une part, j'ai pas envie d'être une espèce de poisson que Dieu ou Jésus attraperait dans ses filets, et j'ai pas non plus envie d'être quelqu'un qui attrape les autres, d'être comme les disciples, être appelé à attraper les gens dans les filets. Et je serais bien embêtée si le filet là est tombé sur vous et puis vous étiez serré dedans. J'avoue franchement que cette image ne me plaît pas du tout. Je préfère, et de loin, l'évangile de Jean. D'ailleurs, en général, je préfère l'évangile de Jean, mais où Jésus appelle ses disciples en chemin, et puis dès le début, les disciples appellent d'autres disciples. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Mais voilà, ce texte est là. Donc il faut bien essayer de l'affronter. Et je dois aussi avouer que ce texte me fait penser à des images complètement archaïques de Dieu. Vous savez, si vous allez... Maintenant que c'est rouvert, vous pouvez aller au musée du Louvre, au département des Antiquités orientales. Vous rentrez dans ce département et au milieu, il y a une vitrine assez grande d'ailleurs, avec à l'intérieur la stèle dite des vautours. Et sur cette stèle, vous voyez un dieu sumérien qui tient dans un filet des corps entassés pêle-mêle d'humains. Et je trouve que cette image est absolument épouvantable. Donc... vraiment, ce texte me dérange. Alors, quand un texte nous dérange, c'est une petite leçon de catéchisme, puisque cet après-midi, on va confirmer les jeunes, petite leçon, quand un texte vous dérange, ben quand même, faut pas le laisser de côté, faut un peu approfondir. Vous pouvez méditer, vous pouvez prier, souvent ça aide d'ailleurs, demander l'Esprit de Dieu pour nous éclairer, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Et puis on peut aussi travailler, approfondir, c'est ce que j'aime particulièrement faire, vous le savez d'ailleurs. Donc on peut trouver des pistes. Alors j'ai cherché des pistes dans l'Ancien Testament. Oui, mais voilà, dans l'Ancien Testament, l'image du filet, elle n'est pas terrible non plus. Que ce soit chez le prophète Ézéchiel, que ce soit chez le prophète Jérémie, ou bien encore chez Job, lorsque Job crie et qu'il dit « Reconnaissez alors que c'est Dieu qui me fait tort et qui m'enveloppe de son filet. » Ça ne me plaît pas beaucoup non plus. Mais quand même, j'avance, ça m'a permis d'avancer, parce que ce soit des images archaïques d'un Dieu voulant nous enfermer, ou bien les images que l'on trouve dans l'Ancien Testament, peut-être que Jésus, lorsqu'il arrive, et qu'il annonce de manière d'ailleurs assez précipitée, dans l'évangile de Marc, il y a ces adverbes, aussitôt, aussitôt qui arrive, on voit bien qu'il y a urgence, il annonce qu'un changement radical, d'ailleurs il le dit, il s'est dit dans l'évangile, le changement est radical. Et l'image va être certainement bouleversée. Donc, je vois là quelques lumières, quelques pistes. Et puis, si on fait attention, dans l'évangile de Luc, eh bien, c'est très mal traduit dans nos Bibles, mais en tout cas, il ne dit pas « vous allez être pêcheurs d'hommes », il va dire « vous allez les ramener vivants, ramener les hommes vivants ». Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Mais quand même, je reste assez perplexe. Alors, que faire encore? Eh bien, partager, lire la Bible avec d'autres. Ça aussi, ça nous permet d'être éclairés, d'aller de l'avant, de trouver des nouvelles idées, parce qu'on a besoin d'être plusieurs. Et puis, vraiment, quand je ne sais plus quoi faire, eh bien, je vais voir mon pasteur pour lui demander de nouvelles idées. Et il en a toujours de très bonnes, d'ailleurs.
Merci Florence. Alors, on a le droit de ne pas aimer un texte dans la Bible, et c'est peut-être une des premières leçons qu'on voulait donner à nos jeunes. On n'est pas forcé de tout trouver merveilleux dans tous les textes de la Bible, mais en tout cas, on peut y réfléchir. Alors, c'est vrai aussi que tout dans la Bible peut être pris bien ou mal. J'aurais même les autres images, et je pense que Florence n'avait pas besoin de moi pour trouver du bien dans cette histoire. toi qui as prêché il y a quand même quelques jours sur les chrétiens qui sont des moutons, hein, c'est pas non plus très enviable. Vous êtes tous des moutons de panure, j'invite à aller à l'abattoir, merci. Et tu as quand même réussi à en tirer du bien. Ou quand Jésus dit à Simon qu'il s'appelle Pierre, une pierre c'est bien, mais c'est aussi la pierre qu'on jette sur les gens pour les tuer, c'est la pierre qui fracasse les crânes des enfants, enfin. Donc tout peut être pris bien ou mal, et moi, comme je suis d'un esprit optimiste, je choisis d'essayer de trouver ce qu'il y a de bien là-dedans et de me dire qu'a priori la Bible n'est pas forcément idiote et qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc ça, tu sais le faire, tu l'as un petit peu montré, mais en gros je vais vous dire la méthode, parce qu'on parle pour des jeunes. La méthode à la base, c'est effectivement d'essayer de voir ce que pouvaient signifier ces choses dans le langage de la Bible. Alors dans la Bible, la mer, c'est le mal, c'est la mort, c'est l'obscurité, c'est l'épreuve. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans le noir, qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté. Et Jésus nous donne comme vocation d'aller chercher ces gens qui sont dans la plus grande difficulté et de les ramener à la surface, de les ramener à la lumière, de les ramener au grand jour, de les ramener à l'air pour qu'ils puissent, pour les aider, pour les ramener à la vie, pour qu'ils ne restent pas enfermés dans les ténèbres des profondeurs effroyables où il y a des monstres marins et d'autres choses terribles. Donc voilà, moi je dirais ça me semble assez simple. Pêcheur d'hommes, c'est de dire préoccupe-toi de ceux qui sont dans l'obscurité, dans la tristesse, pour les ramener à la surface. Ça me semble une bonne vocation.
Moi j'ai quand même un problème, c'est que quand on ramène les poissons à la surface, ils meurent. Donc est-ce que c'est ça que Jésus dit ?
Alors ça, c'est ce que tu m'as dit hier quand je t'annonçais ma bonne vision des choses, ça m'a un peu déstabilisé. Alors je me suis dit, bon après tout, faut peut-être pas toujours pousser les paraboles trop loin, sinon on n'en finit pas, et toute parabole, quand on la pousse à bout, peut finir par dire des absurdités. Mais comme je reste dans mon idée de... Moi je suis finalement... On me dit que je suis libéral, je ne suis pas du tout libéral, je suis un fondamentaliste extrémiste, je suis évangélique, donc je me dis, la Bible a raison. Et donc si les poissons qui sortent de l'eau meurent, pour être sauvés, c'est peut-être pas idiot, parce qu'après tout, c'est quand même ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est justement appelé le poisson, enfin, dans la tradition chrétienne, et Jésus, il nous a donné la vie en mourant. Et peut-être que justement, notre vocation, eh bien, c'est de, pour nous-mêmes, d'aller à la surface et de pouvoir nous donner à d'autres, parce que les poissons que l'on pêche, a priori, c'était pour qu'ils soient mangés par d'autres, c'était pas pour qu'ils les laissaient pourrir sur le rivage. Et peut-être qu'il y a là, je vous le soumets, hein, vous me direz, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais peut-être qu'il y a là le secret de la vie, c'est que le sens de notre vie, c'est de sortir de notre marasme pour aller nous donner nous-mêmes à manger aux autres. Il ne s'agit pas de rester dans le fond de la mer, si vous voulez, de mariner dans le Schwartz, de mariner dans le fond, c'est qu'il ne sert à rien de rester à ruminer ses problèmes dans le fond de la mer, mais il faut monter à la lumière, monter à la surface, remonter du fond, ou plutôt se laisser remonter du fond par Dieu, parce que c'est bien le filet de Dieu qui nous ramène à la surface, peut-être un peu parfois contre nous, mais c'est bien quand même, et pour nous offrir nous-mêmes en nourriture aux autres. Alors peut-être qu'on y laisse un peu notre peau, mais aussi bien Florence que moi, on vivrait peut-être plus vieux si au lieu de se tracasser jour et nuit pour notre bonne étoile, on serait à faire la sieste sur des plages à Copacabana. Eh bien oui, on s'offre pour les autres, on se donne du mal, on se fatigue. Et c'est ce qu'a fait Jésus quand il a dit « mon corps est vraiment une nourriture ». C'est ça, il a dit « prenez et mangez » et au moment de la scène, « prenez et mangez, ceci est mon corps ». Jésus donne sa vie pour être mangé par lui, par nous. Et Jésus dira même aussi « quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Donc finalement, je suis même prêt à aller jusqu'au bout sur ce point-là. Certes, les poissons remontent à la surface, vont peut-être pas y trouver une grande santé, mais en tout cas, ils sont à la lumière et ils permettront d'être une nourriture pour les autres, comme Jésus, notre gros poisson.
Oui. Mais c'est vrai que... Bon. Au début, j'aimais pas beaucoup ce texte, et puis c'est vrai qu'en approfondissant, en partageant, en écoutant Louis et d'autres d'ailleurs, finalement, ce texte, il me plaît bien. Il me plaît bien parce que j'aime cette image du poisson. Alors, comme Louis l'a dit, Jésus, au début d'ailleurs, le symbole des chrétiens pour se retrouver, c'était pas une croix, vous savez, une croix c'est quand même un instrument de torture, ça peut même être signe de l'échec, mais c'était un poisson parce que l'acrostiche de Jésus en grec, c'est Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur, ça donne ictus qui veut dire poisson en grec. Donc, je me dis que c'est pas qu'une histoire d'acrostiche, peut-être que si on a donné cette image du poisson, c'était certainement qu'il y avait d'autres choses à trouver. Et puis les autres choses, on les trouve aussi pourquoi, dans le judaïsme, encore maintenant. Pourquoi le jour, le soir de Shabbat, on mange tant de poissons? Ces poissons, ils sont si importants. Donc, je me suis intéressée, qu'est-ce que c'est que cette image de poisson? Alors, déjà, quand on fait un peu de gématria pour s'amuser, mais enfin, ça a quand même parfois du sens. Le poisson qui se dit « dag », à chaque fois, je te confonds. Oui, parce qu'à l'envers, enfin, j'y viendrai tout à l'heure. Dag, en hébreu, c'est deux lettres. D'ailleurs, c'est assez rare, hein, finalement, les mots en deux lettres, puisque c'est quand dans les langues sémitiques, normalement, tout doit avoir trois lettres. Donc, celui-là, il a deux lettres. Et dag, en hébreu, eh bien, il est fait de deux lettres. Et les lettres, ça fait sept. Si on additionne les deux lettres, puisque chaque lettre est un chiffre. Et donc, sept. C'est pas mal quand même. C'est l'idée quand même d'une certaine complétude. C'est l'idée aussi, on peut aller encore plus loin quand on le met au pluriel, etc., etc. Mais je vous passe tous mes calculs qui parfois sont un peu... Bon, on peut aller très loin comme ça et faire dire n'importe quoi, mais je pense que quand même il y a du sens si on regarde ailleurs. Eh bien, c'est Dag, c'est aussi le signe de l'universalité. Et ça, lorsque Jésus appelle Pierre et les autres à pêcher, eh bien, il ne leur dit pas quel type de poisson ils doivent pêcher. C'est toutes les espèces de poissons qui vont être pêchées. Et là aussi, il y a une rupture avec ce qu'il se passe avant. C'est-à-dire que désormais, la bonne nouvelle s'adresse à toutes et à tous. Quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau, peu importe, on est tous appelés. Eh bien, en effet, c'est quelque chose d'important. Et j'aime bien cette image du poisson parce que finalement, j'aime bien être un poisson. Alors peut-être j'ai pas très envie de mourir pour les autres, mais certainement qu'il y a quelque chose à faire qui doit mourir en nous pour qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle, en effet. Et là, je rejoins complètement Louis. Mais au-delà de cela, le poisson, il a quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que le poisson, ils gardent les yeux ouverts tout le temps. Les poissons, ils n'ont pas de paupières, je crois. Donc, ils ont toujours les yeux ouverts. Et ça nous appelle, nous aussi, à garder les yeux ouverts, à être vigilants, à œuvrer dans notre monde. Et cela, vraiment, c'est quelque chose qui peut nous rejoindre encore et encore. Rester en éveil, rester là, à la surface, regarder la lumière et regarder le monde à la lumière, mais à la lumière de Dieu. Donc, il y a dans cette image du poisson de l'universalité, il y a un appel à la vigilance. Et puis, il y a aussi, et ça rejoint un peu cette idée de nourriture, c'est que Dag, à l'envers, ça fait Gad. Et Gad, c'est la coriandre, c'est bon la coriandre, ça sent bon, mais c'est en fait ce qui ressemble à la manne. Et en fait, c'est ce que Dieu aussi a offert là, au cœur de l'épreuve, à son peuple, eh bien, pour vivre comme nourriture. Et en effet, nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Et puis, pour terminer, le poisson, nous sommes tous peut-être des poissons, en tout cas des descendants de poissons. C'est quand même les premiers êtres vivants. On le sait aujourd'hui aussi, c'était certainement, bon, après les cellules et les amibes, on était quand même les poissons, on sort de la mer tous. Et d'ailleurs, dans la Bible, les premiers êtres vivants créés sont des poissons. D'où l'importance de ce signe d'être un poisson, d'être vigilant, d'être ouvert aux autres, à tous, et de savoir que quelque race de poissons que nous sommes, eh bien nous sommes appelés à servir, à partager et à propager cette bonne nouvelle, puisque ce qui nous est dit au cœur là de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle.
Merci. Mais j'ai un petit correctif à mettre sur le texte, pas sur ce que tu dis qui est formidable, mais sur le texte. Est-ce que vraiment nous sommes tous appelés à être pêcheurs d'hommes? Eh bien en fait, je ne suis pas sûr. Parce que pourquoi Jésus dit-il à Simon, tu seras pêcheur d'hommes? Le texte le dit bien, c'est parce qu'à la base, c'était son métier. Pierre était pêcheur. Donc, sera pêcheur d'hommes celui d'entre vous qui est pêcheur, pêcheur de poissons. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Et donc, je ne crois pas que Dieu demande à tout le monde d'être pêcheur d'hommes. Mais peut-être que ce qu'il nous demande, c'est de transposer au service de Dieu notre métier, ou plutôt ce que nous savons faire dans le quotidien. Pierre, il savait pêcher les poissons, et Jésus lui dit, « Eh bien maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Et vous, vous savez faire quoi? Alors, eh bien, on peut le comprendre de différentes manières. Soit, d'abord comme une image, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une idée à l'autre. Donc Jésus fait ça d'un point de vue un peu pédagogique et pour transposer dans le domaine spirituel ce que vous faites dans le domaine matériel. Par exemple, si vous êtes banquier, par exemple, c'est un métier comme un autre, eh bien, en tant que Jésus, je dirais, vous accumulez des richesses, très bien. N'oubliez pas, accumulez aussi des richesses dans le ciel, des richesses spirituelles, des trésors que les voleurs ni la bourse ne peuvent vous dérober, et amassez-vous des trésors dans le ciel et pas seulement des billets de banque. Ou alors, vous êtes élève, ça arrive, et vous apprenez plein de choses, eh bien, Jésus vous dirait, au lieu d'apprendre seulement des formules de chimie qui ne vous serviront jamais à rien, apprenez l'amour de Dieu. Et apprenez toutes ces choses-là qui seront infiniment plus utiles dans votre vie. Ou alors, si vous passez des concours, ce qui peut aussi arriver en cette période, eh bien, en tant que Jésus, je vous dirais, cherchez à devenir le meilleur, certes, mais en générosité et en foi plutôt qu'en mathématiques ou en autre chose. C'est une option, mais j'en ai une autre. Peut-être mieux d'ailleurs, parce que en fait, si on regarde bien, Pierre ne cessera pas d'être pêcheur de poissons. On le voit ensuite sans arrêt dans l'Évangile avec sa barque, avec ses filets, jusqu'au moment de la résurrection. Et donc Jésus, Pierre ne cesse pas d'être pêcheur pour autant, il ne remplace pas une activité par l'autre. Mais peut-être qu'à ce moment-là, l'autre lecture possible, ce serait de dire, gardez votre métier, mais faites-le autrement. Et ça, ce n'est pas idiot. C'est-à-dire que ne faites pas votre métier pour faire votre métier, mais mettez votre activité humaine au service des hommes et de Dieu. Alors, je prendrai encore des exemples. Si, par exemple, vous êtes maçon et vous fabriquez des maisons, je dirais, eh bien, construisez des maisons, mais le but de votre vie, que ce ne soit pas de faire des tas de pierres, mais que ce que vous faites, vous le fassiez au service de ceux qui vont y habiter. Et ça, je le dis parce que c'est ce que m'a appris mon fils Martin, donc, qui étudie l'architecture, et ses professeurs lui ont expliqué en disant « quand vous construirez des maisons, ne les faites pas pour faire des œuvres spectaculaires ou pour votre gloire, mais toujours pensez à ceux qui vont les habiter. » Voilà, bah, finalement, vous pourrez dire à votre professeur que c'est exactement ce qu'a expliqué l'Évangile. Ou alors, si vous êtes médecin, je dirais, certes, vous soignez des gens, mais ne soignez pas que les corps, soignez aussi les esprits et les âmes, parce que le corps n'est pas une machine. Et quand vous soignez quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un dont vous soignez le corps, il y a quelqu'un à l'intérieur. La vie est plus que le corps. Et donc, voilà, l'idée, je pourrais multiplier les exemples, mais à vous de trouver, trop de métiers possibles, à vous de trouver, dans votre métier, quel qu'il soit, de se dire ce que je fais, je ne le fais pas pour l'activité elle-même, mais je le fais pour des personnes qui sont derrière, et donc tu seras un pêcheur pour les hommes. Et puis je vais me faire ma petite leçon à moi et à Florence, tous les deux ensemble, parce que nous sommes pasteurs et le risque aussi nous menace. Le risque pour un pasteur, c'est de devenir une sorte de fonctionnaire de l'Église, ou alors de se dire, moi, en tant que pasteur, eh bien, j'enseigne une doctrine, je pratique des rites, je fais des mariages, des baptêmes, et tout ça, il faut que ce soit dans la règle de l'Église, tout ça doit être dans la vérité de l'Évangile. Et Jésus me dit gentiment, mais mon ami, sois pasteur pour les gens qui sont là, pas pour une doctrine, pas pour la règle de l'Église, Et donc la chose première, c'est de se dire, accueille ceux qui sont là, et accueille pour les gens, accompagne-les, et puis si la doctrine de l'Église, elle passe un petit peu après, eh bien ça n'est pas grave, et si tu n'appliques pas tout à fait la discipline, c'est pas grave non plus, globalement on la respecte à peu près, mais et donc voilà, adieu les rigorismes, adieu les grands principes, adieu les intégrismes, l'essentiel c'est l'accueil de la personne, l'accueil de chacun, l'écoute, et qu'on est là pour accompagner, pour consoler et pour dire l'amour de Dieu. Et c'est ça peut-être l'essentiel, sinon on n'est qu'un intégriste qui rase tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que ici, en particulier à l'Étoile, eh bien nous sommes particulièrement ouverts, enfin, en tout cas nous essayons de l'être, hein. Et même pour les confirmations. Et certaines paroisses, et j'en ai vu, hein, même dans notre église, où le pasteur demandait à chaque confirmant « Est-ce que vraiment tu crois dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Et si le pauvre gamin de 15 ans dit « Je ne suis pas sûr », tu ne confirmes pas ?» Écoutez, ça veut dire quoi ça ? Moi je ne comprends pas. Nous, dans nos confirmations, il n'y a pas d'examen de connaissance, il n'y a pas de niveau de foi minimum, il n'y a pas d'exigence d'engagement, parce que nous croyons que l'église, elle est là pour ces jeunes, et elle est là pour vous, comme vous êtes. Et le filet du pêcheur ne fait pas le tri entre les grands poissons, les petits, les bons, les mauvais, les ceux, etc. On prend tout le monde, et le but de notre action et de notre Église, c'est de prendre chacun là où il est, et d'essayer de le faire monter doucement et gentiment vers la lumière et vers la vie. Mais en tout cas, cette Église que j'aime, moi, c'est qu'elle vous prend comme vous êtes, elle vous accueille, vous accepte, et simplement vous prendre dans cette espèce de grande communion, je dirais, qui est a priori pour ceux qui sont là. Et ma religion, c'est les poissons, c'est pas le filet. Donc je suis d'accord, les filets, moi, bon, vous les laissez où vous voulez. Et l'Église n'est pas un filet. L'Église, c'est une communauté de gens qui vivent. Et je suis heureux que cette communauté puisse l'être. Avec un but ultime, qui est ce poisson que tu as dit, mais tu sais, l'hébreu est une langue compliquée qui a beaucoup de sens. Bien sûr, tu sais que Gad, c'est peut-être la coriandre, je ne savais pas ça. Mais pour moi, Gad en hébreu, c'est le bonheur. C'est un prénom d'ailleurs, hein. Il y a des gens, des humoristes qui s'appellent comme ça. Gad, c'est le bonheur. Donc voilà vers quoi nous amène toute cette démarche fondamentale. C'est finalement à transformer ce poisson en bonheur, parce que c'est le chemin que nous ouvre le Christ pour nous, sans jugement et sans quoi que ce soit d'autre. Amen. Chantons Saint-Esprit, Dieu de lumière, numéro 3507, les trois premières strophes, Saint-Esprit, Dieu de lumière, que nous chantons ensemble.